Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Amen. Ah, mes frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes le vendredi saint, comme dit en général la majorité des chrétiens sur cette terre. Et tout le monde chrétien pense, voilà, à la mort de Jésus, mais aussi à sa résurrection, à Pâques. Et cette semaine, je suis allé avec mon épouse à l'enterrement d'un cher ami, et nous l'avons vu dans son cercueil. C'est une chose à laquelle on ne s'habitue pas, hein, voir quelqu'un dans un cercueil. Chaque personne qui était présente regardait ce corps, et en réalité, je regardais et je voyais bien que chacune de ces personnes se trouvait en face de sa propre mort. On y pense, hein. La plupart, c'était des incroyants. Et je connais les questions que se posent les incroyants. Vous voyez, ça fait maintenant plus de 40 ans que je prêche l'Évangile. J'en ai entendu, hein. La plupart des gens disent être ou ne pas être. En réalité, les incroyants disent serons-nous ou ne serons-nous pas ? Alors, il n'y a pas 150 solutions, hein. Ou on va continuer à vivre, ou pas. Je trouve que les gens ne se posent pas très sérieusement la question. Quand je dis très sérieusement, c'est-à-dire ils ne posent pas la question en désirant vraiment avoir une réponse. Et puis en rentrant de cet enterrement avec mon épouse, on était pris dans les embouteillages, on a écouté les informations à la radio, et puis on a entendu des horreurs, comme on entend beaucoup, n'est-ce pas ? Et le fruit de ma réflexion, ça a été, en fait, par la croyance au néant, l'homme concentre forcément toutes ses pensées sur la vie présente. C'est logique. Et c'est pourquoi il se préoccupe de ce qu'il vit là maintenant, mais pourquoi se préoccuper d'un avenir qu'on n'attend pas en fait? Et la logique, c'est aussi que cette préoccupation exclusive du présent, eh bien ça conduit naturellement à songer à soi avant tout. La croyance au néant, c'est-à-dire la croyance il n'y a rien après la mort, c'est le plus puissant stimulant de l'égoïsme. Si les incrédules étaient conséquents avec eux-mêmes, ils se diraient « Jouissons pendant qu'on est là !» Et puis jouissons vite, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et puis le pire, jouissons quand même, malgré tout. Et puis chacun pour soi. Le bonheur ici-bas, en fait, c'est pour les plus adroits. Tiens, je viens de faire un verre sans me rendre compte. Ok, c'est vrai que le respect humain en retient beaucoup et... Mais de plus en plus, on voit des gens qui ne craignent plus rien. Ouais, aujourd'hui encore, j'entendais un monsieur ce matin, à 5h et quelques du matin, en train d'attendre son RER, sans doute pour aller travailler. Un fou, un possédé, lui donne un grand coup de pied dans le dos et le précipite sous le RER. Cet homme est mort. Ça a été filmé par les caméras de surveillance. Comment peut-on en arriver à faire des choses pareilles gratuitement comme ça? Le respect humain. Il y en a beaucoup même qui n'ont plus ça. Ils se disent, oh, la loi humaine n'atteint que les maladroits. Alors ils appliquent tout leur génie au moyen d'esquiver, n'est-ce pas, cette loi humaine. La doctrine du néant. La doctrine du après la mort, il n'y a plus rien. Elle est malsaine, elle est antisociale. Cette croyance, elle conduit les gens à casser les liens de la solidarité, à casser les liens de la fraternité qui sont les fondements de nos rapports sociaux. Et de nos jours, on nous bassine avec des fables. Là, on nous bassine avec la fin du monde, le 21 décembre 2012, je crois, c'est ça. Ils ont tiré un film là-dessus. Supposons que tout le monde croit ça. Que pensez-vous que les gens feront d'ici 2012 s'ils croient vraiment ça? Croyez-vous que les gens vont travailler à leur propre amélioration? Croyez-vous que les gens vont travailler à leur instruction? Croyez-vous qu'ils vont respecter les droits? Croyez-vous qu'ils vont respecter les biens, la vie de leurs semblables? Croyez-vous qu'ils vont se soumettre aux lois, aux autorités, à leurs parents? Sachant que, bon, dans 1 an et demi, 2 ans, croyez-vous que la majorité des gens se sentiraient investis d'un devoir quelconque? Moi, je vous dis non. Non. Alors, pourquoi les gens qui ne croient pas en Dieu, à la vie éternelle, à la vie après la vie, pourquoi ils n'agissent pas massivement comme des grosses brutes épaisses, faisant, n'est-ce pas, n'importe quoi, jouissons, allons-y. Eh bien, je vous le dis vraiment, c'est parce que la plupart des incrédules ne sont pas vraiment des incrédules authentiques. En vérité, ils ont plus de doutes que de convictions. Ils doutent, mais ils ne sont pas convaincus qu'il n'y a rien derrière. Ils ont des doutes. Et puis en plus, ils ont une trouille du néant. Parce qu'on a été fait de cette manière qu'on a quand même en nous cette pensée de l'éternité. Alors ils font les malins, ils prétendent qu'ils ne croient en rien, ils fanfaronnent. Des incrédules absolus, eux, ils agissent en conséquence. Et heureusement, ils sont en grande minorité. Vous voyez, lorsque les incrédules absolus deviendront la majorité de la société humaine, elle sera foutue. Et puis les religions sont impuissantes contre l'incrédulité. Il leur manque quelque chose pour combattre l'incrédulité, le Saint-Esprit qui est là pour convaincre. De nos jours, les gens s'instruisent, les gens réfléchissent, et puis les religions manquent d'honnêteté face aux gens. Les religions enseignent des choses qui sont plus du tout en concordance avec les découvertes scientifiques. Et plutôt que de l'admettre, plutôt que de dire, ben oui, voilà, c'est vrai, bon, eh bien, la religion dit c'est blanc, alors que la science dit c'est noir. Et puis la science le prouve. Et puis, non, on continue. Enfin bon. Alors les gens choisissent. Il faut opter entre l'évidence ou la foi aveugle. Et la plupart des gens, ben, choisissent, on balance la foi, quoi ça sert. Alors, il y a toutes sortes de courants de pensée plus ou moins intéressants. Vous avez le panthéisme, par exemple. Pour eux, Dieu est à la fois esprit et matière. Ça séduit beaucoup de monde. Tous les êtres, tous les corps, tout ce qui est dans la nature, composent la divinité. Très intéressant comme idée, hein? Et puis, chaque chose, chaque être, en fait, on est les molécules, les éléments qui constituent ce fameux Dieu. Dieu, en fait, il est l'ensemble de toutes les intelligences réunies, si vous voulez. Chaque individu, vous, moi, on est une partie du tout, hein? Donc on est Dieu. On est Dieu. Il n'y a pas d'être suprême qui commande l'ensemble. C'est une doctrine bizarre parce que on sait bien que chaque partie est donc soumise à la loi du progrès. Donc, si chaque partie est soumise à la loi du progrès tout en étant une partie de Dieu, ça veut dire que Dieu progresse alors. S'il progresse, il était comment à l'origine? Je me demande. Comment il était à l'origine? La question, c'est comment est-ce qu'un Dieu imparfait à l'origine a pu créer des lois aussi merveilleuses, une terre aussi extraordinaire, où tout pourrait bien aller s'il n'y avait pas ce sacré péché? Bref, enfin, une théorie ne peut pas être acceptée comme vraie si elle ne satisfait pas la raison, vous voyez. Et puis, qui a envie, s'il y a une éternité, d'y perdre sa personnalité. Parce que dans cette doctrine du panthéisme, on perd notre personnalité, on fait partie d'un tout, voilà. Parce que si nous conservons notre volonté, Dieu n'a plus de volonté personnelle. Sa volonté, c'est plus que la composition d'un milliard de volontés divergentes, vous vous rendez compte un petit peu. Enfin bon, c'est pas très réfléchi l'histoire. Mais ceci dit, mes frères et sœurs, la religion chrétienne, qu'est-ce qu'elle a de mieux à donner? Ça vaut pas mieux. Ça vaut pas mieux. Comment les gens... Posez des questions aux gens. Comment voyez-vous l'éternité? Comment, même à des chrétiens évangéliques, posez la question. Comment voyez-vous l'éternité? Qu'est-ce que vous allez faire pendant l'éternité? Est-ce que vous vous préparez pour l'éternité? Est-ce que vous croyez que les études que vous faites aujourd'hui vont servir à quelque chose dans l'éternité?
Oh non!
Ah bon? Alors, quelles sont les alternatives maintenant? Un, le néant, il n'y a rien. Deux, l'absorption de l'individualité dans un tout universel. Ou alors, trois, l'individualité de l'âme avant et après la mort. On est d'accord? Et c'est la troisième alternative qui est la plus logique. Bref, en fait, c'est celle qui fait le fond de toutes les religions à succès. Je veux dire, des religions qui marchent, qui tiennent le coup. Alors, il y a une conséquence. Notre sort doit dépendre de nos qualités personnelles, des progressions qu'on fait ici-bas sur Terre. Mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous prêcher le salut par les mérites. Écoutez bien ce que je dis. Est-ce que vous trouveriez normal d'admettre que l'âme d'un pervers soit au même niveau après la vie terrestre que l'âme d'un homme de bien? On est sauvé grâce à Jésus-Christ. Le monde entier se souvient de sa croix, particulièrement aujourd'hui. Dimanche, nous fêterons la résurrection de Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité pour nous, pour notre salut. On n'a rien à y ajouter. Mais il y a une justice divine et chacune de nos âmes a la responsabilité de ses actes en vue de récompenses qui ont été promises. Tout le monde n'aura pas la même récompense. On ne va pas gagner le ciel par nos œuvres, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, notre place au ciel sera en fonction de ce que nous aurons fait et de ce que nous aurons été ici-bas sur la terre. Autrefois, les gens, ils écoutaient les prêtres catholiques et croyaient qu'en faisant, ils croyaient qu'en faisant ceci ou en faisant cela, leur devoir religieux, dans l'accomplissement de l'accomplissement de rites extérieurs, ils croyaient, on leur enseignait que ça leur assurait le paradis. Ça a duré ce que ça a duré, mais de nos jours, les gens sont devenus intelligents. Et ils sentent un vide en eux, un vide que leur religion ne peut pas combler, alors ils l'abandonnent. Ils deviennent philosophes, bouddhistes, voilà, philosophes. Allez dans les grandes librairies, allez regarder où vont les gens. Philosophie, pensée positive, ésotérisme, oh là là, il y a plein de monde là, plein de monde. L'homme a besoin de croire quelque chose. Et la faute des religieux, la faute des religions chrétiennes, c'est de donner aux gens une nourriture qui n'est pas adaptée. Les gens veulent savoir d'où ils viennent et où ils vont. C'est normal de savoir d'où on vient. Moi, je ne comprends pas que les chrétiens ne croient pas à leur préexistence. Les gens veulent savoir d'où ils viennent et où ils vont. Et si on leur montre un but qui ne correspond pas aux données que leur fournissent la science, qui contrarie, qui est ridicule, ou qui ne correspond tout simplement pas à leurs aspirations, ben ils vont rejeter ça, c'est logique. Bon, excusez-moi, mais moi, si le paradis, c'est être comme les petits anges, ils ont l'air de s'ennuyer, là, quand on les voit sur les tableaux, dans les sculptures, l'éternité, d'une béatitude éternelle devant le trône. Moi, non, non, ça je rejette, je veux pas de ça. C'est parfaitement inutile. Et le monde a raison d'abandonner ces idées-là. On ne peut pas penser que pendant l'éternité, on va être en contemplation devant son trône. Il y a des cantiques qui disent ça, mais moi, je ne peux pas chanter de choses pareilles. Ça offense ma raison. On me dit, oui, Michel, tu es un intellectuel. Mais non, je ne suis pas un intellectuel. Je réfléchis un tout petit peu. Et je regarde ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas ça. Alors, comme on n'enseigne pas la Bible, ben, les gens préfèrent les fables. Elles sont fausses, ils le savent, mais au moins, ça leur permet de rêver. Ça leur permet de discuter, de voilà. Regardez le succès des livres et des films Harry Potter. Des forums pendant des années, ça continue encore, les gens discutent, parlent de ça. Il y a le rêve là-dedans. Et pourquoi ça a du succès autant? C'est pourtant faux, tout le monde sait que c'est faux. Mais les religions ne font plus rêver. Les religions ne font plus. Bon, c'est trop arriéré. Ça pouvait faire rêver au 15e siècle, mais maintenant il faut se mettre à dire la vérité écrite, qui est tout à fait en accord avec ce que la Bible dit. Moi, si ça paraît inutile, je ne peux pas suivre. Nous devons, en tant que disciples, Luc 14, 33, présenter un avenir éternel logique qui soit digne de la grandeur, de la bonté et de la justice de Dieu, mes frères et sœurs. Nous devons enseigner les choses que la Bible dit et en faire la preuve par notre vie, par notre comportement et aussi par les interventions surnaturelles de Dieu qui sont l'approbation, le signe de son approbation sur ce que nous disons, sur ce que nous vivons. Notre doctrine, elle n'est pas une œuvre d'imagination plus ou moins ingénieusement conçue. Notre doctrine, elle est le résultat de l'observation des faits réels qui se passent sous nos yeux. Je me rappelle, quand j'étais tout jeune converti, dans les églises, on passait un film qui s'appelait Les fenêtres de l'âme. C'était un film d'un groupe de scientifiques chrétiens américains, on appelait ça les films maudits. Je ne sais pas si ça existe toujours. Moody, les films maudits. J'aimerais bien que ça existe encore. C'était très beau. Et là-dedans, ils disaient que si seulement on pouvait mettre les passages des Écritures à l'observation critique dans notre comportement, en faisant ce qu'ils disent et observer ce qui arrive, alors à ce moment-là, nous pourrions faire un bond en avant extraordinaire. Parce que les scientifiques observent les lois de la nature, alors ils font un bond extraordinaire. Et puis ensuite, ils ne se font plus confiance à eux-mêmes parce qu'ils ont vu que leurs sens sont limités. Maintenant, ils ont fait toutes sortes de découvertes extraordinaires. Avez-vous entendu ce qui s'est passé là, près de Genève, avec ces particules? Mais c'est extraordinaire, ils appellent ça la cellule de Dieu, la particule de Dieu. Moi, ça me fait. Je trouve extraordinaire. Les gens sont à la recherche, ils mettent des milliards parce qu'ils veulent trouver. Puis nous, on reste avec nos trucs, nos machins. Dieu est au ciel. Oui, c'est vrai que Jésus a dit notre Père qui est aux cieux, mais c'était pour faire comprendre à cette époque-là que Dieu était infiniment élevé. Mais maintenant, on sait bien que Dieu n'habite pas le ciel. Jésus a quand même dit aussi, il est en vous, il est autour de vous, il est omniprésent, il remplit tout. Et puis, cette histoire que le séjour des morts, que l'enfer, c'est dans la terre, mais c'est spirituel. Le Sheol, ça veut dire la tombe. Enfin, voilà. Il faut parler avec les mots qu'on peut comprendre aujourd'hui. Ils ne contredisent pas du tout ce que la Bible dit. Simplement, avec l'intelligence que nous avons acquise aujourd'hui par la science, par la réflexion, par l'intelligence, nous pouvons comprendre les Écritures d'une façon beaucoup plus claire. La connaissance ayant augmenté. Pas seulement dans le monde, mais de la connaissance est d'augmenter aussi au sujet de ce que la Bible dit. Non, on veut toujours rester comme au 15e siècle ou au 14e siècle. Mon Dieu. Mes frères et sœurs, ma croyance dans la résurrection n'est pas basée sur une hypothèse, mais sur une certitude. Bien sûr que Jésus-Christ est ressuscité, nous le savons, parce que, pas seulement parce que c'est écrit, pas seulement parce que c'est écrit. Non, monsieur, si ça n'avait pas été écrit à l'époque, ce message ne nous serait pas parvenu. Voilà pourquoi Dieu a voulu que ça soit écrit. Mais maintenant, nous pouvons y croire parce que nous voyons Jésus agir effectivement, réellement, matériellement, dans la vie de tous les jours. Ça, c'est autre chose. Parce qu'il fait des choses qu'aucun homme ne peut faire. J'étais avec une amie et je prêchais, c'était une grande soirée de salut et guérison. Et c'était la première fois qu'elle assistait. Cette amie n'est pas chrétienne, elle est hypnothérapeute. Elle soigne des gens par l'hypnose. Alors, elle voulait me voir, elle voulait voir comment je faisais pour guérir les gens. Alors, elle a assisté à quelques guérisons. Elle a dit, alors ça, non, ça, c'est pas l'hypnose. Ce que tu fais là, c'est, on peut pas redonner la vue à un aveugle avec l'hypnose. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Gloire à Dieu! Jésus est là pour se prouver lui-même, pour montrer qu'il est ressuscité. L'enseignement que je vous apporte, il est confirmé par les miracles que Jésus fait, comme au temps où les premiers chrétiens vivaient en communauté. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, dimanche prochain, on va approfondir ces choses, Dieu voulant. Pâques, c'est la fête de la vie, c'est la fête de la résurrection. On va aborder des sujets un peu dérangeants, hein, mais je crois que c'est bien parce que ça aide à réfléchir et à louer Dieu pour des raisons, pas louer Dieu pour rien. Des fois, je me trouve dans des églises et puis je vois les gens qui louent Dieu. Alléluia, sur le trône élevé, Dieu tout-puissant, éternel, Alléluia, Alléluia. Puis, quand on sort, ils se plaignent. Oui, j'ai pas ma carte de séjour. Oui, j'ai pas de travail. Oui, je suis pas encore délivré de la cigarette. Oui, j'ai ceci, oui, j'ai cela, et puis ça va pas, et comme ci, et comme ça, et nini, et gna gna. Pourquoi il loue alors? Pourquoi il loue Dieu? On loue Dieu pour une raison. Je loue le Seigneur pour mon salut. Ça, c'est déjà pas mal. Mais le salut comprend quoi? Juste pour après? Vous n'êtes pas sauvé déjà maintenant? Vous n'êtes pas sauvé déjà là maintenant? Ne vous sauve-t-il pas? Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toute maladie. Pensez-y. Parle au rocher. Hein. Dieu avait dit à Moïse, parle au rocher, il te donnera les eaux. Alors il a parlé au rocher. Et il a donné l'eau. Et la Bible nous dit que le peuple, il a marché pendant 40 ans là dans ce désert, ses souliers se sont jamais usés. Ils n'étaient pas malades. Les vêtements ne s'usaient pas. Il faisait comment Moïse? Qu'est-ce que c'était le médicament qu'il donnait? Et il avait une pharmacie avec lui et il soignait les malades comment? Voilà, je vais vous dire comment il les soignait. Il leur disait, je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit. Et ils y croyaient. Y croyez-vous? Croyez-vous dans la résurrection de Jésus-Christ à cause de faits réels? Mettez votre foi à l'épreuve dans des choses réelles. Puisque vous croyez, puisque la révélation est venue à vous, maintenant faites la preuve que ce que vous croyez est vrai. Et ainsi, les gens vous suivront. Mais ils ne vous suivront pas si vous leur parlez d'une éternité à contempler le trône de la grâce. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu. Nous aurons des mondes à créer, nous aurons des villes à diriger, des pays, nous aurons des univers. Dieu nous utilisera selon les capacités que nous aurons développées ici-bas. Voilà pourquoi nous devons travailler. Voilà pourquoi nous devons nous parfaire. Voilà pourquoi. Bon, je vous enseignerai ces choses dimanche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez fiers de connaître Jésus-Christ, celui de la Bible. Mais prouvez-le au monde. Prouvez-le au monde par votre vie et par le surnaturel. Dieu vous garde. Amen. Merci Jésus de garder mes frères et sœurs, de les bénir, de les encourager et de permettre qu'ils puissent aller de l'avant, toujours fiers d'être ton enfant, de porter ton nom, pas le nom d'une religion, mais ton nom, Merci Seigneur Jésus d'étendre ta main sur ceux qui souffrent là maintenant et d'enlever les douleurs, d'enlever les symptômes, mais d'enlever aussi la vie de la maladie, que toute vie de maladie quitte ses corps au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris, soyez bénis, que ceux qui ont des problèmes financiers ou autres soient délivrés de cela, que quelque chose vous arrive de magnifique. Au nom du Seigneur Jésus, je prie que vous soyez bénis. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous garde. Soyez dans la paix. Que Dieu vous garde. Amen.